héros de résistance. Je vous aurai une statue comme Hank. Une fois là, Allison et mes aïeux, pas de crime que vous n'ayez commis. Vous offrez pas assez votre gorge quand vous tranche vos sales carotides. Lâche ! Des millions gradins vous l'hurlent. Tout ça par orgueil prétentieux. Ramener la bousine d'où elle venait, qu'elle m'appartenait pas du tout, qu'elle était un bien de Sartrouville, vanité. Je lâchais au Fritz, au Franskaï, au Fifi, à n'importe qui au bain-douche. Tous étaient acheteurs, avec grand-mère et infirmière et nouveau-né. Je serais le très honoré, rentier heureux, pas le clochard vieillard, dans la merde.
Je peux vous montrer les fenêtres.
Oui.
Mais nous, ce n'est pas possible d'entrer dans les appartements.
Dans l'appartement, ah bon.
Passe-toi, je vous le dis.
J'aime beaucoup cette cour. Elle est de couleur jaune assez vive.
Il est une maison qui est très vieille. Il est bâti 1752.
Une maison du milieu du 18e siècle. Et alors, oui. elle est là peinte de couleur jaune. Je suppose que c'est une bâtisse en briques, peinte de couleur jaune.
Mais
assez
il
vive.
Il est un
et avec un ensemble de fenêtres et de grandes portes qui donnaient probablement sur des écuries à ce moment-là, en vert foncé.
Oui.
Et il y a une double entrée, une entrée qui est sur le Van Stranden et une entrée qui est sur la place.
Oui, un beau place.
Et quelle est la statue qui est au milieu de cette place?
C'est le fondateur de Copenhague, Absalon.
Absalon, qui est le fondateur de Copenhague.
Ah oui.
Au XIIe siècle.
Oui, environ.
Le 27 mars 1945 commence donc pour Céline l'aventure danoise. Elle durera 6 ans jusqu'en juin 1951 et elle aura pour étape l'appartement d'une danseuse au cœur de la vieille ville, une cellule de condamnés à mort à la prison de Vesterfangsel, un lit à l'hôpital national de Copenhague, un grenier au-dessus du parc de Rosenborg et une chaumière au bord de la Baltique. Mais pour l'heure, Céline croit que le cauchemar de sa débâcle est fini en montant l'escalier du Van Stranden à Copenhague le 27 mars 1945, au moment où il sonne à la porte de son amie la danseuse danoise Karen Marie Jensen.
C'était les fenêtres juste sous le toit. Oui.
Oui, on aperçoit deux fenêtres baies assez vastes et deux vasistas à côté.
À l'autre côté aussi, vers la ruche, n'est-ce pas?
C'était l'appartement de Karen Marie Jensen.
Oui, il est.
Et elle ne disposait pas d'un jardin particulier.
Non,
c'était simplement cette cour jardin.
C'est impossible.
Oui.
Nous n'avons pas de jardin que ça.
Il y a dans cette cour tout un ensemble de petits volets avec une sorte de judas grillagé au milieu qui donne un curieux aspect à cette cour.
C'était une vieille maison pour avoir de marchandises, de greniers.
C'était
aussi
au fond des entrepôts, là, des commerçants de la place
parce que,
qui entreposaient des marchandises.
Au coin, il était une vieille marchande coloniale de sucre et de farine et tout ça. Et il a eu ce bâtiment pour avoir ses marchandises. Et là, il y a une étable pour les chevaux, là et là, et pour les voitures aussi.
Vous n'avez pas connu Céline à l'époque où il habitait dans cette maison, pendant quelques mois, de mars à décembre 1945.
Mais non.
Vous n'avez jamais rencontré.
Vous savez, c'était pendant que les Allemands étaient ici et on n'a pas su. Il se
cachait là.
Oui. Et vous pouvez voir
Et ça, c'était l'entrée de l'immeuble du côté de le 25.
Oui.
Et de ce côté-ci, il y avait également des fenêtres.
Oui,
mais... au quatrième étage, sous le toit, qu'on aperçoit à peine, oui.
Bien, plus haut que vous pouvez. 1, 2, 3 et 4.
Qu'est-ce qu'il avait comme vue, là? Et le bâtiment qui est juste
c'est,
en face.
C'est l'église avec... de Christian Paul, là.
Oui, avec
et
un
c'est
fronton,
le Parlement.
Et le Parlement danois.
Oui. C'est Château Christiansborg.
Il était vraiment au cœur de Copenhague.
Oui, il est dans le vieux Copenhague, n'est-ce pas?
C'est donc que dans cet appartement, en décembre 1945, on est venu l'arrêter et qu'il a été conduit à la prison de Copenhague.
Oui, je pense que c'était ça.
Comment s'appelle cette prison?
Vesterfængsel, c'est loin d'ici. C'est à le côté de l'ouest de Copenhague.
Philippe Soler, est-ce que vous étiez déjà venu à Copenhague et quelle est votre première impression de cette ville, évidemment, qui est certainement bien différente de celle qu'a découverte Céline en 1945, printemps 45.
Jamais venu à Copenhague. Je trouve que c'est une sorte d'Amsterdam plus austère, plus sévère, plus froid. Mais le printemps a l'air bien, non? Il fait beau, il y a un très beau soleil, et puis il y a les mouettes. Il y a cette présence quand même de la mer, de la Baltique, cette espèce d'aération quand même, qui fait qu'on respire un tout petit peu mieux que dans les villes continentales. Et je crois que chez Céline, ça, c'est un thème constant. Les ports, n'est-ce pas? Cette passion pour l'eau, la passion de tout ce qui est maritime, de tout ce qui est mouvement de l'eau, que ce soit de la Seine à New York ou à Londres et à Copenhague, est quelque chose de très important et à quoi il compare très souvent son ambition d'écriture. C'est-à-dire qu'une écriture qui doit observer les moindres mouvements, les moindres frissons à la fois des déplacements de l'eau et des mouvements du port. Donc je crois que c'est une belle ville, je trouve, avec un beau soleil pour l'instant. Je crois que...
La première impression qu'il a dû avoir en arrivant, c'est tout de même une impression de soulagement. Il avait traversé l'enfer dans l'Allemagne en ruine, voilà. et Copenhague, c'était le salut.
Alors Copenhague, c'était le salut. Il avait enfin obtenu son Ausweis, c'est-à-dire sa sortie d'Allemagne, après un cauchemar qui a été justement cette traversée de l'Allemagne détruite.
Qu'il décrit dans Nord de manière tout à fait cocasse,
et dans Rigaudon. Et l'arrivée là était alors le salut, en effet, et en même temps... correspondait à une mythologie très ancienne et très intéressante. D'une part, Céline a toujours été un homme du Nord, qui voulait aller vers le Nord, comme si le Sud était quelque chose qui tirait l'être humain vers une sorte de décomposition, de pourriture. Rappelez-vous les passages sur l'Afrique dans Voyage au bout de la nuit, n'est-ce pas, cette espèce de répulsion profonde pour le trop de soleil, le trop de chaleur qui ouvre les chairs et qui fait qu'on voit, n'est-ce pas, en quelque sorte, la pourriture. Ce cheminement vers le Nord,
l'opposé mystique. Dans le voyage, c'était l'Amérique.
C'est ça,
le
c'est
Nord
ça.
Par rapport à l'Afrique.
C'est ça, c'est ça. Et donc, le Nord, c'est quelque chose au contraire où la lumière devient plus immatérielle, où les choses s'allègent et comme le pôle Nord, on va chercher le Graal. Mais un Graal très trivial dans son cas, puisqu'il s'agissait aussi des économies qu'il avait faites, qu'il avait réalisées en louis d'or du Voyage au bout de la nuit et des autres de ses livres, je suppose, et qu'il avait confié justement à Karen Marie Jensen, encore une danseuse qui ici était chargée de les lui remettre lorsqu'il viendrait les rechercher au cas où il se tirerait de la catastrophe. Et je crois que c'est ce qui s'est passé, en effet.
Il paraît qu'il est parti de Paris avec les vêtements bourrés à la fois d'or, de médicaments, de quinine et de cyanure.
Voilà, alors il y a dans le cas de Céline quelque chose qu'il faudrait appeler le moine en pèlerinage, n'est-ce pas? C'est une sorte de cheminement monastique et mystique, n'est-ce pas? C'est le pèlerin de sa propre imagination, de sa propre mythologie, et bien entendu, il a tout ce qu'il faut sur lui, parce qu'il sait que sur son chemin, il ne trouvera que traîtrise, hostilité, réticence, trahison, répétée à nouveau, et c'est d'ailleurs ce qui s'est toujours produit pour lui. Il est quand même extraordinaire de penser que ce type, qui a commencé par écrire un roman tout simplement, en étant médecin, a fini à travers l'Europe en décombre et au phosphore, et a fini comme une sorte d'ennemi public numéro un de la planète. Il exagère un peu ce côté-là de son existence et de sa légende, mais en même temps, c'est vrai.
Je fis 2 ans de réclusion à la prison Vesterfængsel, pavillon K, Copenhague, Danemark. Aux Danois condamnés à mort, s'est pas volé. Non, Larbin, non, bien sûr, évidemment. Ils m'ont fait faire encore 5 ans sur les bords de la Baltique dans des petites cahutes très spéciales. Par 20, 25 degrés au-dessous. Et à mes frais, hein? À mes frais! Pourquoi? Pourquoi? Ben, ils savaient pas. Pour le principe. Ils sont comme ça, les Danois. Oui, mais ils le disent pas aux touristes. Mais les touristes s'en aperçoivent pas. Non, ils se font éberluer, ça suffit. Il n'y a pas plus con que les touristes. Ils partent tous j'en foutre, prétentieux, ils reviennent encore plus j'en foutre et plus prétentieux. Tous sous des boniments d'agence. De quoi ils leur parlent, les Danois? D'Andersen, Hamlet, Kierkegaard.
René Rondvilfos, vous êtes lié d'amitié avec Louis-Ferdinand Céline dès 1936. Vous avez continué à le voir jusqu'à son départ pour l'Allemagne en juillet 1944. Et en 1947, vous lui avez rendu visite à Copenhague peu de temps après sa sortie de prison. Vous êtes donc l'un des rares témoins à pouvoir nous apporter votre témoignage sur Céline au Danemark.
J'ai été à Copenhague parce que je voyais souvent le docteur Clément Camus, qui était un homme fort intelligent et très aimable, et qui était déjà âgé. Il était capitaine à Varsovie avec De Gaulle, quand De Gaulle était capitaine, et il avait connu justement cet arrêt des Russes devant Varsovie en 1920. Clément Camus m'a fait connaître l'avocat danois de Céline qui a sauvé sa peau au Danemark et qui s'appelait Mikkelsen, un homme remarquablement intelligent et qui était de l'intelligence service certainement et qui justement, connaissant la valeur littéraire de l'homme, son génie, a préféré le garder en prison plutôt que de le livrer à des bourreaux, ce que je comprends parfaitement. C'était une façon de le sauvegarder. Il l'a compris, d'ailleurs.
Et pourquoi avait-il choisi le Danemark où il arrive le 27 mars 1945?
Il avait choisi le Danemark parce qu'il avait une petite amie dans le temps, avant la guerre, Karen, qui avait une propriété...
Karen Marie Janssen.
Qui avait une propriété à Copenhague ou dans les environs, et il avait enterré les louis d'or du voyage au bout de la nuit, ce qu'il en avait gardé, dans le jardin de Karen. Je crois qu'il n'en a retrouvé que la moitié, mais les trésors qu'on enfouit sont très rarement récupérables, car ça voyage sous terre. C'est bien connu. Je suis donc parti par... ayant rencontré Mikkelsen, qui m'a dit de venir passer 8 jours à Copenhague, ne connaissant pas le Danemark, ça m'a intéressé. Je suis parti de Paris par un des premiers Nord Express qui allait à Stockholm, avec les ferryboats, et après avoir traversé Hambourg complètement rasé et vu ces malheureux petits gosses allemands qui couraient après le train pour avoir un morceau de sucre que nous avions au wagon-restaurant, tout de même, c'était minable et pitoyable. À la gare de Copenhague, Céline m'attendait avec sa femme Lucette Almanzor et le chat Bébert en écharpe dans une musette. Le chat Bébert et lui m'ont amené à l'hôtel d'Angleterre où Mikkelsen m'avait retenu une chambre, enfin à mes frais. Et Louis Ferdinand et sa femme habitaient une mansarde donnant au-dessus du parc du château de Rosenborg. C'était l'automne, les couleurs des arbres étaient magnifiques car le Danemark est le pays des contes d'Andersen, je ne vous l'apprends pas. Et ceci dit, c'était ravissant comme couleur féerique avec les petits nains qu'on voyait surgir entre les feuilles mortes. Un jour, avec la voiture de Mikkelsen, nous avons fait toute une tournée d'une journée. On a dit qu'on déjeunerait à Elsener et nous avons visité 2 ou 3 châteaux historiques qui n'intéressaient nullement Louis Ferdinand, qui restait dans la voiture avec le chauffeur et qui nous laissait monter les escaliers et regarder les cadeaux des rois étrangers aux souverains du Danemark. Et arrivé à Elsener, moi je n'y avais jamais été, j'avais lu Le Voyage de Shakespeare de Léon Daudet, qui est un livre ébouriffant également, n'est-ce pas? Shakespeare ne connaissait pas non plus Elsener, son génie lui a fait construire en imagination la réalité, ce qui est invraisemblable mais vrai. Et quand j'ai eu aperçu en ce début de novembre, par un jour de brume, comme il faut pour jouer Hamlet, la terrasse d'Hamlet, Je suis retourné à la voiture où Céline était restée absolument muet et je lui ai dit, je t'assure qu'il faut que tu sortes pour voir. C'est un coup d'œil incomparable qu'on n'a qu'une fois dans sa vie. Il est venu, il ne disait rien. Il y avait les vieux canons de bronze à moitié rouillés qui regardaient justement cette mer glauque qui allait jusqu'à la brume cachant la côte de la Suède, la côte de Malmö, un peu au nord de Malmö. Et Céline m'a dit, c'est une mer à pêcher des âmes.
Alors, de ce grenier, sous ces toits, quelle était la vue qu'avait Céline lorsqu'il était ici?
Bon, d'abord, il y a évidemment le parc avec les grands arbres. Et là, avant que le feuille était là, on voyait facilement le château.
À l'hiver, on aperçoit le château de la fenêtre?
Facilement.
Oui.
Maintenant, ça sert comme résidence de l'été pour la famille royale et aussi comme musée.
Et là, ce parc est ouvert au public. Là, on voit des gens qui sont au soleil, qui sont détendus, qui disent « c'est un lieu de détente ».
Oui, on peut y aller, se reposer sur les pelouses, et on peut se balader, on peut promener son chien. C'est bien.
Vous habitez là, vraiment, sous les toits, et vous êtes au 8. Je ne sais pas prononcer le nom de cette rue. Vous avez ici combien? 2-3 pièces qui sont mansardées?
J'ai 3 pièces.
3 pièces.
Une cuisine, une toilette et un couloir.
Et il y a au moins 2 fenêtres qui donnent sur le parc.
Oui.
C'est évidemment surtout Lucette Almanzor qui, à sa sortie de prison, est venue habiter dans ce grenier. C'est elle qui a trouvé la location de ce petit appartement. Et Céline y a également séjourné entre le mois de juin 1947, au moment de sa libération, au mois de probablement d'octobre 1947, avant de partir à Klarskovsgård. Malgré tout, le logement était certainement modeste, mais enfin, ce n'était pas du tout une situation misérable.
Pour l'instant, ce que nous avons vu, c'est-à-dire l'appartement de Karen Marie Jensen est ici, je trouve ça quand même extrêmement beau. Il est évident que la vue sur ce parc est magnifique. Magnifique.
Et même en montant l'escalier, il y a toute une décoration extrêmement légère, avec des stucs. Enfin, c'est plus une maison pour danseuses.
C'est très, très civilisé. Voilà. Peut-être que d'ailleurs, les Français imaginent que Copenhague n'est pas une ville civilisée. Il faut dire le contraire. C'est une ville très civilisée. Hein. Non, la prison, elle, alors, devait être en effet tout à fait autre chose.
Son état de santé lui a permis tout de même, justement, comme il était mauvais, de sortir de la prison pour être envoyé à l'hôpital, où les conditions, probablement, de détention était plus facile.
Je crois que c'est l'écrivain français qui a joué le plus avec ses états physiques dans la littérature. Il fait intervenir d'une façon extrêmement violente son corps dans le langage, dans ce qu'il a raconté, n'est-ce pas? C'est le narrateur chez Céline est un narrateur qui a des bourdonnements d'oreilles, des vertiges, le fameux syndrome de Meynière qui fait que l'espace en effet n'est pas droit et se renverse et voltige, qui a mal au bras, qui a de la musique dans la tête, qui a des locomotives qui passent, qui a des sifflets, qui ne peut pas dormir, etc., qui joue sur le fait qu'il aurait eu une trépanation. Nous savons que c'est pas vrai, mais c'est comme si c'était vrai. C'est donc un corps ouvert, complètement habité par une sorte de bourdonnement et de bruit continu. Et bien, dans la prison à Copenhague,
c'est de souffrance, un corps souffrant. Voilà, notamment, certainement très pénible d'écrire à cause de la balle qu'il a eue dans le bras droit.
C'est ça, il n'est pas courant non plus qu'un écrivain nous parle de cette difficulté à chier et du fait qu'on est obligé de lui faire des lavements bouillants, n'est-ce pas, quand il est en prison, etc., etc. Donc tous les détails sont donnés avec une extrême crudité, n'est-ce pas, de nourriture, de déchets.
Il a peur de devenir aveugle aussi.
Il a peur de devenir aveugle, comme sa mère, parce que vous savez que sa mère, justement, il le dit, c'est tuer les yeux sur la dentelle et sur la finesse de la dentelle. Or, lui recommence exactement le même geste que sa mère, c'est-à-dire l'écriture pour lui est une petite finesse dans le détail et il faut s'y appliquer en écarquillant les yeux. et il a peur de sombrer aussi dans la cécité, exactement comme sa mère. Quoi qu'il en soit, cette histoire de souffrance physique qui s'accentue d'ailleurs à partir du Danemark, parce que à partir de là, alors ça va être le thème général de ce qu'il fait. Il souffre tout le temps et il y a une sorte de cri permanent.
Dans cette allée que nous avons suivie du jardin de Rosenborg à deux pas du château, donc entre le domicile de Céline et le château, c'est, je crois, dans ces allées du parc que Céline et Lucette allaient promener le chat Bébert au bout d'une ficelle. Et je pense aussi au jugement très sévère qu'il portait sur les Danois. Il en a parlé à Milton Hindus, qui était venu le voir en 1947, ici au Danemark, et qui l'a rapporté. Et il a eu cette expression tout à fait curieuse. Il a dit que pour lui, le Danemark, c'était un peu le modèle du peuple national-socialiste et que c'était aussi le moins hamlétien de tous les peuples.
Oui, vous savez, en gros, à partir du moment dont on parle, Céline, il déteste absolument tout et tout le monde, n'est-ce pas? Les Français surtout, il ne faut pas l'oublier, d'abord, surtout, avant tout les Français, qui sont décrits dans les termes les plus abominables, et constamment, et sans aucune pitié, ni aucun intérêt. Les Allemands aussi, à travers les trois grands romans, les Danois aussi, finalement. Encore une fois, c'est le geste de l'écrivain absolument sûr de son génie. C'est-à-dire, ce que je dirais mérite seul de subsister. Tous mes accusateurs, tous mes persécuteurs, tous les gens qui m'ont ennuyé auront leur nom gravé en or à la Sainte-Chapelle, etc. Vraiment, ils seront stigmatisés pour l'éternité, en quelque sorte. Et rien d'autre ne m'intéresse que d'écrire. Ça, c'est, je crois, sa position fondamentale. Céline est au moment où nous parlons, quelqu'un qui sort, je crois, d'un désespoir absolu, n'est-ce pas, d'une vision extrêmement lucide des choses. Et l'expérience de la prison est fondamentale. Cette espèce d'isolement, quand même, pendant 18 mois, hein, 18 mois de prison.
Dans une cellule de condamnés à mort.
Dans une cellule de condamnés à mort, avec probablement l'inquiétude qu'il avait qu'au cours des nuits assez agitées qu'il entendait en collant son oreille au sol et contre les murs, il y avait des bruits quand même très suspects, il y avait des gens qui mouraient dans la nuit, il y en avait dont il entendait, dit-il très, très précisément, défoncer le thorax sous le bassin, enfin sous les coups de trick de la police, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y avait des règlements de compte, des rafles, et c'était une époque où en effet tout le monde devait régler plus ou moins ses comptes au Danemark comme ailleurs. C'est-à-dire, je suppose qu'il va y avoir des collaborateurs arrêtés par la police qui peut-être se faisaient un peu la main sur eux ou sur elles, parce qu'il y a aussi des femmes dans ce qu'il dit, d'une façon probablement énergique. Alors il devait avoir l'impression que, après tout, la porte pouvait s'ouvrir à tout instant et s'il avait été tué, personne ne s'en serait plaint.
Il m'écroue, je stagne, purule, pèle. Il m'extirpe, renfourne, au trou, j'tire. J'entends les échos du palais, la cour solennelle réunie. C'est du BBC plus garce. Saisi de plus que tout, le cochon, pour l'éternité. Privation sans limite, carcan, pilori, ordure nationale. Sa médaille militaire aux puces. Qu'on lui rouvre toutes ses blessures. Ha ! Mutilé ! Ha ! 75 ! Ha ! Pour ça ! Roulez, tambour ! Qu'on le relacelle, récorche vive, larde, piment, ya, 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 yes ! 10 000%. Ça vous paraît pas pensif ? Je vous rénumère. Il me laisse pas un réchaud à gaz. Où j'irai faire bouillir mes seringues ? Je pense à ma pratique. Chacun ses aléas, sans doute. Il y a des destins, il y a des toucheurs, il y a des branleurs, des ébranleurs, il y a des non-lieux. Tenez par exemple, de Noël. Ils l'ont abattu, et voilà. Moi, j'ai abattu rien du tout. J'ai pas de non-lieu. Ramstram, gram. Oh, j'ai ma petite idée, bien sûr, ferme et sincère.
C'est ma petite idée qu'on tuerait si l'on pouvait. Mais ni moi, ni l'idée, madame.
Qu'est-ce que vous faites comme peinture?
Expressionniste.
Le 24 juin 1947, 18 mois jour pour jour après son arrestation, Céline est relaxée. Il signe un engagement sur l'honneur de ne pas quitter le Danemark sans une autorisation. Il a retrouvé Lucette Elmansor dans le grenier du parc de Rosenborg, mais il doit le quitter à l'automne. Son avocat, maître Mikkelsen, possède une propriété de campagne près de Korsor, sur les bords de la Baltique. Il mettra deux petites chaumières à sa disposition. C'est là que nous nous rendons, au village de Klarskovgard, en traversant un pays plat où alternent de vastes étendues de champs cultivés et des terres boisées avec un mélange de sapins et de bouleaux, jusqu'à ce que nous atteignions les falaises de Klarskovgard, à 7 km du port de Korsor, où Louis-Ferdinand Céline, soumis au rude climat scandinave, mais fourbissant l'arme ultime du langage, rongeait la chaîne de l'exil sur les bords de la mer Baltique.
Ce verger est magnifique et très bien entretenu, et en ce moment où nous arrivons, c'est en fleurs, des fleurs blanches et roses. Ce sont des pommiers, des poiriers? Et au bout de ce verger, alors on débouche exactement sur la vue de la mer, on est au bout de la falaise. Et c'était cette maison, c'était cette grange qu'il habitait? C'est cette grange? Elle a l'air ancienne.
1600.
Du 17e siècle?
Oui.
Alors c'est une grange extrêmement modeste, ouais. C'est-à-dire il y a un toit de chaume.
Petit, hein, c'est assez petit.
Oui, mm-hmm. Il y a en fait un seul niveau, mm-hmm. Qui est même pas en pierre, qui est une sorte de torchis, peint dans un rose saumon.
Les couleurs sont très intéressantes.
Oui, oui. Hein.
C'est noir.
Et puis alors il y a une partie, premier étage, qui est sous le toit, hein, c'est-à-dire sous le grenier, qui est recouverte de lattes de bois peintes en noir. Ah. Alors on a cette tonalité du rose saumon, du noir, qui découpe même des bandes, un peu comme des poutres, et puis les portes qui, elles, sont dans un bleu pétrole. Mm-hmm. Et ici, directement, alors il avait la vue, une vue sur la mer. On est au bout de la falaise.
On tombe complètement là-dedans, dans la Baltique. Hein.
Aujourd'hui, le ciel est couvert, donc est gris. La mer est également assez grise.
C'est très très beau, c'est très très beau.
Il y a de la brume au loin, mais on aperçoit des cargos et même un paquebot avec la traînée noire de la fumée.
Il y a des hirondelles.
Et regardez, et voilà. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a un cygne.
Nous avons beaucoup de cygnes ici.
Ah oui, au bord de la mer.
Oui, oui, oui.
Si vous voulez, nous allons peut-être rentrer dans la maison pour voir un petit peu de quelle pièce il disposait. Il faut monter deux marches de pierre pour rentrer dans la maison. Il y a de la neige d'hiver ici?
Oui. Cet hiver, ce n'était pas beaucoup, mais l'année...
L'avant,
oui. Alors, c'était jusque là.
Non, 2 mètres de neige.
Oui.
Alors, au rez-de-chaussée, il y a une petite entrée. À droite, une grande pièce en longueur, qui est une sorte de living. La maison est meublée parce qu'elle sert également un petit peu de villégiature l'été.
Oui, exactement. Mm-hmm. Céline demeurait seulement l'été ici. Mm-hmm. À l'hiver, et il avait une autre maison.
Ah, c'est ça.
très près à la maison ici, ma plus grande. Mm-hmm. Et
plus confortable.
Oui, exactement.
Et puis alors, dans l'entrée, prend un escalier alors absolument vertical, qui est un escalier de bateau, et on se demande si Céline pouvait monter. Jusque-là, il y a une corde qui permet d'y accéder. Nous allons essayer de monter. On va vraiment dans le grenier sous les toits. Là.
C'est déjà la corde, hein. Voilà. Attention.
Faut pas rater la marche.
Allez, allez-y. Je vous tiens la corde. Allez. Ça va ?
C'est bien avec...
Voilà, c'est la dernière pièce de la maison, qui est donc une chambre.
Tout
il y a actuellement deux lits, une petite commode, deux lits en fer, extrêmement modestes. Et toute la pièce est recouverte de lattes de bois. Et surtout, il y a une fenêtre qui rend la pièce très claire et qui donne directement, qui a vue directement sur la mer et sur le verger tout en fleurs qui est sous nos yeux, là, juste en dessous. On a l'impression tout de même que c'est une maison bien étroite pour d'abord ce grand corps, puisqu'il faisait 1m80. Il vivait donc là avec sa femme Lucette, avec un ou deux chiens des bergers allemands. Donc il devait prendre de la place, plus un chat, le chat Beber, c'est ça ?
Écoutez, c'est quand même une cellule d'exil, quand même la cabine de bateau du vieux corsaire qu'on a coincé. Maintenant, s'il fallait absolument choisir entre l'appartement que nous avons vu à Clichy et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je prendrais peut-être quand même ça. C'est-à-dire les pommiers en fleurs et la belle pique.